この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。
Et bienvenue sur le plateau de Sumimasen Turbo. Sumimasen Turbo, votre émission 100% pop culture japonaise et jeux vidéo, ou peut-être l'inverse. En tout cas, on est réunis, on est de retour sur ce magnifique plateau. Plateau largement agrémenté, comme vous pouvez le voir, avec une petite figurine supplémentaire issue de la collection personnelle de Greg. Parce que je crois que, j'ai l'habitude de dire que les émissions sont exceptionnelles, mais là je pense qu'une émission, on va parler en long en large de Final Fantasy VII Rebirth. Si ça, c'est pas la cerise sur le gâteau,
je pense que personne ne s'y a pensé.
Non, voilà, une exclusivité mondiale. On va parler de Final Fantasy VII puisqu'on est le seul à en parler avec cette figurine sur le plateau.
L'exclusivité, c'est nous.
Oui, évidemment, bien sûr. Je sais que c'est un avis très attendu. On a la chance, tous les trois, d'avoir pu parcourir le jeu en long, en large, en travers. Alors, plus ou moins longuement, parce que c'est un long jeu. Mais on aura donc l'occasion de revenir en détail sur ce qu'on pense réellement de ce Final Fantasy VII Rebirth.
Parce qu'on en était resté à Final Fantasy XVI.
Oui, on était resté sur Final Fantasy VII. Un petit peu mitigé. C'est vrai que c'est pas la plus grosse note de notre rubrique Famitsu Mimasen que le monde nous envie. Famitsu a rendu son verdict d'ailleurs sur Final Fantasy VII Rebirth. C'est 38 sur 40.
Et c'est moins qu'FF16.
C'est moins qu'FF16. Est-ce que ce sera le cas également dans Famitsu Mimasen? Eh bien, vous le saurez. Après cette... allez, dans quoi? Une heure? Deux heures? On ne sait pas. En tout cas, vous serez fixés. D'ici là, on aura également évoqué toutes les recos, puisque nous sommes là aussi pour ça. On va disséquer un petit peu l'actualité japonaise. Alors, c'est un petit peu moins lourd.
Non, c'est plus léger.
Ce sera plus léger, mais on
voit
promet...
qu'on approche la fin de l'année fiscale.
Ouais, exactement.
Je pense que les scoopous vont tomber plutôt le mois prochain.
Ouais, il est temps de rentabiliser, là. C'est clair.
Rappelons-le, l'année fiscale japonaise s'arrête le 31 mars.
Comme l'année scolaire.
Voilà. Exactement. Vous aurez également un petit tour d'horizon de l'actualité du jeu vidéo japonais, puisque nous sommes là pour ça. Et puis, pour commencer cette émission, un petit rappel que sans les membres Patreon, nous ne serions rien. Et en plus, on a eu la chance de pouvoir les croiser de visu il y a ne serait-ce que 15 jours. C'était directement à l'eSpot de Paris, rue de Rivoli. Et à cette occasion, dans Sumimasen Turbo épisode 12-2, eh bien, nous avons pu interagir directement avec certains chevaliers, puisque c'est comme ça qu'on appelle nos patriotes. Et grâce à vous, eh bien, cette émission continue d'avancer, de progresser. On peut même faire venir notre sémillant réalisateur Hubert qui retrouve sa régie favorite. Tout va bien, Hubert?
Tout va bien, ouais.
T'as kiffé?
Est-ce que j'étais bonne, les gougères? Les gougères sont bonnes. Très content d'avoir fait ce live. Voilà, c'était un peu compliqué, hein, techniquement. On avait des petits soucis techniques.
Wow. Tekken, c'était chaud, non?
Tekken, ouais. Mais en fait, on aurait dû faire des répétitions. On n'a pas eu le temps de faire parce que l'écran géant borne, le beau studio de l'eSpot ne fonctionnait pas. Ouais. Bah, on n'a pas fait de répète, mais bon, il y a eu des...
Je crois qu'en régie...
Franchement, ça s'est bien passé.
En régie, tu devais pédaler sur un vélo pour mettre en route l'écran.
Ouais. Vous êtes toujours aussi nombreux, évidemment, à nous suivre sur les réseaux et on vous en remercie. Merci à tous ceux qui souscrivent tous les mois à patreon.com/sumimasen. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de nous rejoindre. C'est le meilleur moyen de soutenir cette émission, même s'il y a d'autres moyens qui existent. Il y a simplement le pouce, il y a l'alerte, comment on dit? On fait sonner la cloche, c'est ça, hein? Mmh. On active la cloche, je ne sais plus, bref, c'est des expressions.
Alors, on m'a expliqué que la cloche, c'était pas ouf, en fait.
Ah oui? Parce
que,
en fait, ça change toutes les semaines.
Mais
ah
non,
bon,
mais
c'est l'algo, ça.
A priori, la cloche, c'est une seconde alerte. Ah. Si t'es déjà abonné à un truc, tu reçois déjà une alerte pour dire hey, machin a fait une nouvelle vidéo. Si tu mets une cloche, en fait, c'est une super alerte.
Ah, bah autant être alerté doublement à l'arrivée, l'avènement d'un nouveau Sumimasen. C'est quand même très important dans l'agenda personnel des gens.
Ce que je veux dire, c'est qu'on donne beaucoup d'importance à la cloche, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Sans vouloir parler d'Aeris, mais c'est.
Comme l'a dit si bien dit Greg, si vous commentez, eh bien ça pousse l'algo. D'ailleurs, on voit des gens qui sont là juste, qui nous laissent un petit commentaire juste pour dire moi je suis là pour l'algo. Et ben merci, ça nous fait remonter dans les recommandations YouTube. Et puis ben voilà, mois après mois, nous on est là, on sera présent. D'ailleurs,
l'important c'est que les chevaliers, nos auditeurs, enfin nos spectateurs soient contents.
On reviendra d'ailleurs prochainement sur les modalités pour obtenir ce magnifique Soumi Book 2023.
Flou.
Ah, je suis flou.
Recule.
Ah oui, attends. Voilà.
Pour les patriotes.
Regardez. Oh là 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 là. Voilà, cette collection de vignettes, c'est la collection intégrale des notes de Famitsu Mimasen. Il y a même
de la première année.
Dès la première année, il y a même certains tests rédigés par.
Pardon.
Oui, hein, c'est vrai.
Je sais pas pourquoi tu cherchais.
Même Hubert. Oui. Même Hubert a écrit.
Ouais, même Hubert a écrit, ouais, parce que Hubert ne sait pas que monter, il sait également écrire. Et nous lui sommes redevables. C'est même lui qui nous prévient, il met des petites alertes Google, donc ça veut dire qu'il sait lire également, donc c'est très pratique. Hein, c'est...
Non, mais on va le garder. Hein.
Ouais, il y a des chances. Bon, tout ça pour dire qu'il y a également de grandes chances que nous partions au Japon. D'ailleurs, le TGS est repoussé un petit peu, ce sera plutôt fin septembre que mi-septembre.
Il fera moins chaud, je pense qu'ils ont eu tellement de problèmes...
De climat.
Voilà, l'année dernière, qui se sont dit on va pas prendre de risque, on va se rapprocher d'octobre.
Et nous sommes déjà en train d'établir le programme, mon cher Daniel.
Normalement, nous irons si le soutien des patriotes continue. Je sais que l'année dernière, on avait mis un palier qu'on avait franchi et qu'ensuite on était redescendu. Si on maintient le cap et si ça monte dans ce sens-là, on aura assez de sous pour le faire, parce que j'ai découvert l'année dernière ce que tu m'avais prévenu, c'est que
les impôts.
Non.
Les impôts, le yen est bas.
Non, mais c'est que ça coûte quand même assez cher. Comme
ah bah, sans blague.
Et c'est pas que les chococros de Hubert. Hein,
non.
Il y a
le kérosène. Ouais.
Il y a le lit. Non, il y a surtout le lit pour Hubert.
Oui, c'est très
important.
Il demande
ça.
Un king size, hein, Hubert.
Et un matelas, le matelas de Thomas Pesquet, là, tu sais, à mémoire de forme. Ouais. Une petite vertèbre qui porte la caméra toute la journée.
Si le soutien continue et ça continue de monter, revient vers.
Arrête de menacer les gens.
Mais voilà, si ça continue dans ce sens-là, donc on se prépare à l'échéance Tokyo Game Show. Et rappelons-le, Tokyo Game Show, on avait fait plus de 15 vidéos sur place. Et j'ai entendu dire, Hubert, qu'il y a un nouveau contenu qui vient du Japon, que tu es en train de préparer. C'est ce que tu as dit dans les Director's Cut.
C'était une exclu Director's Cut et tu balances dans le pas Director's Cut.
Bah écoute, pour les gens qui veulent s'abonner au Director's Cut, voilà.
Ouais, il y a des petits.
Ah bah là, c'est vraiment le 10 de 10.
Il y a des petits moments, voilà, dans les coulisses.
Voilà.
Filmés à la mano, hein. Même des zooms manuels, vous verrez ça si vous êtes.
Bonjour. Pardon.
Dit
non, j'ai dit bonjour à la caméra avec Cloud. Ouais.
L'installation des jouets.
Tout le monde n'est pas Hubert, hein, il faut bien l'admettre, et on débute nous aussi derrière la caméra, même si bon. Mais on va réussir nous aussi à avoir autant de talent qu'Hubert. Non, ça c'est impossible. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va commencer cette émission. On la commence généralement par l'Euroco. On va juste faire une toute petite interruption pour placer un eye-catch et on se retrouve juste après. C'est parti. Avant de se pencher sur le cas de Final Fantasy VII Rebirth, c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo de Suimasen Turbo épisode 13, on a l'habitude ici de commencer par des recos. Bah oui, on fait les choses à l'envers et on va d'ailleurs s'intéresser, Daniel, à ta première reco, puisque tu as pris le temps de regarder l'idole d'Hubert en long et en large.
Je vais la faire à l'envers, tellement à l'envers que ça va être une anti-reco, évidemment.
Ah bon ?
Bah, j'annonce un peu la couleur. J'ai vu Hideo Kojima Connecting Worlds, qui est un documentaire produit par... A24 sur Famous Legendary Video Game Creator Hideo Kojima. Et c'est plutôt un making-of de Death Stranding.
Ouais.
Et je pense que c'est un des plus mauvais documentaires que j'ai vu sur Hideo Kojima à ce jour.
Ah bon ?
Ouais.
Mais il y en a eu d'autres ?
Alors, bah, y a eu beaucoup d'autres parce qu'il y a eu les making-of, par exemple, de ses précédents jeux.
Metal Gear Solid 2, ça date. Il y avait le DVD qui avait été fourni.
Il y avait le DVD. Moi, celui que j'adore particulièrement, c'est celui de Rising Revengeance, où justement, on le voit à un moment dans un cul-de-sac créatif et tu le vois comment il harangue son équipe et tout ça. Là, c'est un peu le Hideo Kojima 2020, c'est-à-dire, il raconte un peu le passage à vide qu'il a eu après. La fin de MGS n'est même pas nommé, tu vois.
Je crois qu'il est nommé une fois d'après ceux qui tiennent la comptabilité.
Je crois qu'il est à peine nommé, sinon ils disent Famous Tactical Espionnage, tu vois, enfin, un truc comme ça. Et en fait, c'est un film qui s'attarde beaucoup à montrer Hideo Kojima dans des moments très très gentils où il donne des conseils aux gens, on montre qu'il dirige et tout, mais c'est surtout une manière d'inviter les copains.
à dire tout le bien qu'il pense de Hideo Kojima. Alors, je les ai plus en tête tous, mais
on les a vus passer. Norman Reedus,
il y a George Miller, Guillermo del Toro,
Nicolas Winding Refn,
Mads Mikkelsen, Mamoru Oshii qui est là aussi. Il y a Shinji Mikami, Shinya Tatsukamoto, plus les doubleurs, plus Yoji Shinkawa dit sans doute la chose la plus intéressante de tout le documentaire, puisqu'il dit ce mec, c'est un peu à moitié un prophète en fait, parce que ce qu'il annonce arrive souvent, et ça justement n'est pas adressé dans le film. En fait, ce film contente de manière très 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 superficielle de suivre Kojima, qui regarde l'horizon pendant trois quarts de ses plans. Il regarde l'horizon loin.
Ouais, là je vois la bande annonce, on dirait plutôt une pub pour parfum avec voilà, Hideo Kojima, quoi.
C'est un peu ça. Il regarde au loin, il est un moment sur un bord de mer, donc il regarde le bord de mer au loin. Il dit ouais, il dit j'aime les films indés. Super. T'apprends rien de nouveau. T'as pas d'insider, quel qu'il soit, alors que quand même Death Stranding, la seule chose que tu apprends, c'est que tu sais qu'il a vendu le projet Death Stranding à Sony en ne leur disant pas vraiment ce que c'est. C'est le seul truc vraiment qui est un peu admis. Et sinon, tu le vois avec ses potos.
En gros, tout est très complaisant. C'est un peu une agiographie, un documentaire marketing.
C'est un doc marketing, ouais.
Est-ce qu'on sait qui l'a fait?
Alors attends, c'est...
Est-ce que ça se trouve, c'est juste un mec qui aimait bien Kojima et qui s'est dit tiens, je vais faire financer un docu pour rencontrer mon idole.
Du coup, si j'ai bien compris, les auteurs dans le jeu vidéo n'existaient pas avant Hideo Kojima. C'est un petit peu ça le propos du film.
Alors, ton poteau Jeff... Jeff Keighley qui dit que c'est le plus grand artiste, le plus grand auteur de jeux vidéo.
Ça, c'est toujours un débat qui est possible.
C'est un débat qui est possible, mais bon, en même temps, on connaît les jeux vidéo. Je veux dire, pour moi, un auteur se définit par la patte, par les choses qui le définissent et qui le distinguent des autres. Pour moi, ce serait plutôt Shigeru Miyamoto qui est quand même un peu...
Il y a toujours débat, mais en tout cas, le présenter comme le seul, l'unique, et avant lui, il n'y avait pas d'auteur, ça
et surtout,
un petit peu et surtout, surfait.
De vendre un peu le côté un peu plus indé, alors que, bon, c'est quand même un jeu qui a été financé à 99% par Sony. Bon, il y a des choses qui ne collent pas, mais surtout, le fait est que tu n'apprends rien. En tant que documentaire, c'est vraiment... Un documentaire, ça doit être un point de vue. Il n'y a pas vraiment de point de vue. Voilà, ça doit t'éclairer sur quelque chose, il n'y en a pas. Je pense que vraiment ils sont passés à côté du sujet, et c'est très très décevant, parce que je l'attendais en fait. Je me disais il y a peut-être un potentiel. En plus, quand même, Death Stranding, il s'est évoqué juste une fois, mais c'est quand même un jeu extraordinairement visionnaire d'un jeu sur les livraisons pendant que tout le monde est cloisonné, et pendant, je veux dire, c'est ce qui nous est arrivé littéralement, encore une fois, Kojima prophète. C'est Yoji Shikawa avait un bout de la réponse. Mais en même temps, et ça n'évoque même pas non plus son côté un petit peu fripon, tu vois, le côté un peu pas déglingo.
Oui, il est très lisse, alors que c'est un gars qui adore faire des blagues.
C'est un mec assez rigolo. Et honnêtement, il y a une phrase clé qui résume ce documentaire. C'est un moment, il y a une grosse réunion de matinée, et il dit « Ah bah, comme il y a la caméra, l'ambiance est bonne. » Genre, hein, tu vois, il admet que bah, s'il y a la caméra... Et du coup... Bah en fait, la caméra n'a pas su se faire oublier pour faire un bon documentaire.
Ouais,
en fait.
Il a la réputation d'être quelqu'un d'assez difficile au travail. J'avais eu la chance de l'interviewer à l'époque de... Ah, je ne sais plus, en tout cas, autour des années 2010, toujours
donc
chez
déjà,
Konami.
Et déjà, il était Hideo
Kojima. Et j'avais posé la question, et il paraît que Hideo Kojima est quelqu'un de... On dit qu'il est très difficile de travailler avec Hideo Kojima.
Bah,
avec,
c'est Kantoku.
À quoi devez-vous cette réputation?
C'est un mec qu'on appelle Kantoku.
J'avais senti un froid parcourir l'armée de gens autour de lui dans la salle. Et il a dit, oui, c'est vrai que je peux parfois être un peu autoritaire dans mes décisions, ce genre de choses.
J'ai rencontré Kojima, mais évidemment aussi les gens qui travaillent avec Kojima, et que c'était passionnant parce qu'ils nous racontaient les gens, surtout la période justement dont j'en parlais dans Rising Revengeance. C'est le moment où la boîte était dans le fossé. Ils se disaient mais comment on va faire et tout, et comment ils la ranguaient, et moi j'aurais voulu voir une vidéo sur ces pep talks qu'on m'a raconté sur lui, comment il motivait son équipe, parce que c'est quand même un chef d'équipe. Et je pense que le documentaire passe à côté de son sujet. C'est un documentaire qui est disponible sur Disney+ dans le monde entier,
sauf
en France.
En France.
Bientôt, j'imagine. J'ai profité d'un micro séjour à l'étranger pour le voir, mais j'imagine que si vous avez un cousin à l'étranger,
Mon ami VPN.
Et attention, nous ne sommes pas sponsorisés par des VPN.
Oui, c'est vrai,
rappelons-le.
Pas encore.
Qu'est-ce qu'ils foutent d'ailleurs?
Nous n'incluons pas de publicité commerciale.
Mais non, mais on a répondu à ce sujet dans le FAQ du live. On a dit non, on ne fait pas d'OPSP jeux vidéo. Voilà.
Très bien. Bah écoute, en total contrepoint de ce document, de cette hagiographie d'Hideo Kojima, j'ai eu la chance, juste la veille là, du tournage, de regarder le reportage NHK World chez Capcom. Donc ça s'appelle Yakucam, c'est ça, les 100 caméras. C'est un dispositif qui consiste à placer 100 caméras dans un endroit, quel qu'il soit. Et là, en l'occurrence, c'est directement dans les bureaux à Osaka de Capcom, pendant la création de Street Fighter 6 et en parallèle de Resident Evil 4. Et honnêtement... Enfin, on voit des discussions qui sortent un petit peu du cadre, on voit enfin des remontées de bretelles, on voit enfin des projets qui tournent mal, on voit des jeux complètement buggés, c'est-à-dire que des gens stressés, c'est-à-dire que un mois avant la sortie, on voit l'état dans lequel était Resident Evil 4, qui pourtant est un modèle de finition, hein, quand il est sorti. Ouais. On voit que les séquences ne se lancent pas, on voit les personnages qui passent à travers Léon. D'ailleurs, la partie qui concerne Resident Evil est peut-être meilleure que celle de Street Fighter 6, où on voit tout ce qui est modélisation, comment ils équilibrent les coups, le temps que peut mettre simplement...
Toi, t'aimes bien voir les gens souffrir, en fait.
C'est vachement éclairant sur les difficultés que tu peux connaître dans les processus de développement. Après, dans les interviews, tout le monde dit c'était formidable, c'était incroyable. Là, tu vois comment le mec, il passe 2 jours ou presque à régler simplement la texture de la boule de feu poison de Haki, le personnage additionnel de Street Fighter 6. Ça, c'est assez incroyable. Et là, on voit donc dans les extraits, tu vois l'état dans lequel était Resident Evil 4 avant... un mois avant la sortie, et aussi comment les interactions avec le service de Quality Assurance, donc le fameux QA, qui fait des remontées, qui dit « j'ai jamais vu autant de bugs un mois avant la sortie », alors que l'équipe est en train de cravacher pour intégrer les dernières fonctionnalités en jeu. Donc il y a cette espèce de compte à rebours de prise en étau du réalisateur, entre d'un côté le QA qui lui remonte des centaines de bugs, et de l'autre côté le producteur qui lui dit « ça c'est pas prêt, ici c'est pas assez sombre, ici c'est pas assez lumineux, pourquoi vous n'éclairez pas ce chemin ?» Et tout ça, ça montre la difficulté que c'est dans la dernière ligne droite de finaliser un projet aussi d'une telle envergure. Et étant donné qu'il n'y a le seul point de vue que tu as, c'est des caméras qui sont là cachées,
il n'y a aucun commentaire.
Parce que tu finis par oublier, effectivement, comme tu le dis, il n'y a aucun commentaire, à part les cartouches que l'on voit pour expliquer celui-ci, il fait ça. Ça donne, au bout d'un moment, tu finis par oublier que les caméras sont dans le bureau.
Oui, et puis les gens, ils
les gens dorment, les gens sont exaspérés, les gens se prennent des commentaires. Quand le mec qui assure le contrôle qualité sur la boule de feu vient dire non, ça va pas du tout, il va falloir que tu le refasses, alors que le mec il a tout gonné. Et rien que le fait d'aller s'adresser à son supérieur pour lui demander un check, sent déjà que ça lui coûte. Tout ça, ça donne enfin une petite vision parcellaire, certes, mais de ce que peut être la réalité d'un développement au sein des studios japonais.
Et un bouclage, en plus.
Et un bouclage qui plus est, avec dans les bons moments comme dans les moments de tension assez élevés. Et enfin, un peu de vérité, un petit moment de vérité, loin de tout ce qui est aseptisé, loin des interviews Famitsu.
Je savais pas que t'allais faire ce sujet, parce que ça se complète bien avec
le sujet.
C'est le pendant contraire.
J'ai pas encore vu Connecting Worlds, même si j'ai un ami commun qui... Bref, je vais me débrouiller. on se débrouille, vous savez. Mais je suis sûr que tu les mets c'est un miroir complètement réfléchissant, un anti-miroir de ce que peut être Connecting Worlds. Et rien que pour ça, c'est disposition, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur la chaîne NHK World. Je ne sais pas si ce sera disponible longtemps, par contre, parce que c'est un reportage qui a été diffusé il y a déjà quelques mois et qui est enfin traduit, disponible en anglais à tout le monde. Il n'y a pas de VPN, il n'y a rien que.
Peut-être on peut mettre
consulter très facilement. J'essaierai de mettre un lien dans la description en espérant qu'ils soient encore valides. Mais vraiment, si vous intéressez de près au jeu de Capcom, je pense qu'il y aura quelqu'un qui aura fait des petites copies de sauvegarde, au jeu de Capcom et même d'une manière générale au monde du développement et encore plus au monde du développement japonais, c'est quelque chose d'assez éclairant que je vous conseille d'aller voir. Ça ne dure pas très longtemps, en plus, c'est l'affaire d'une grosse demi-heure.
Ah ouais.
Donc, et en plus, on voit des documents internes exclusifs. Donc c'est vraiment une très très riche idée. Daniel, je te retends le bâton de parole, puisque tu vas nous parler de cinéma cette fois-ci.
Série. Écoute, il y a une mini-série, comme on dit, qui vient de commencer, encore une fois, disponible en France sur Disney+, mais elle est dispo, c'est bon, celle-là.
Pas besoin d'aller en Suisse.
Pas besoin d'aller en Angleterre.
Passer la frontière.
Voilà. Est-ce que tu te souviens de Shogun ? Parce que
le restaurant Shogun à Courbevoie.
Non. Les mamans se souviennent bien de Shogun, et maintenant aujourd'hui les enfants peuvent s'en souvenir. C'est une série adaptée du roman de James Clavell, et c'est un roman culte des années fin des années 70, début des années 80, qui a déjà été adapté dans une mini-série aussi dans les années 80 avec Richard Chamberlain. J'ai donné les vidéos à notre camarade Hubert si, quand il voudra les mettre. Et c'est une version très modernisée et très, beaucoup plus japonaise qu'avant. Alors, tu te souviens, Greg, on en avait parlé de ce truc de la manie du Japon. Mmh. Les bandeurs du Japon, c'est comment ?
Ah non, moi j'appelle ça le Japon Sama.
Le Japon Sama.
Après, mais... les plusieurs.
Voilà, voilà. C'est alors.
T'as plusieurs noms pour se moquer des gens qui sont trop fans, plus fans du Japon que les Japonais.
Shogun est un des trucs vraiment une des œuvres originelles, quand même, de ce truc, de cette passion que peut développer le Japon et qui nous raconte l'histoire quand même d'un marin qui débarque.
Il est quoi déjà ? Il est portugais, non ?
Justement, il est pas portugais. Lui, il est anglais.
D'accord.
Il est capitaine de son bateau. Attends, il est joué par... Il a un nom qui est incroyable. Il s'appelle Cosmo Jarvis, l'acteur.
Cosmo Jarvis, ouais, c'est un super héros.
Il joue John Blackthorne, que vous connaissez peut-être, puisque si vous avez joué un certain jeu de Team Ninja, tout ça est très inspiré. C'est inspiré de la réalité, mais les noms sont un peu différents, puisque au lieu de s'appeler Ieyasu Tokugawa, il s'appelle Lord Toranaga. Et Lord Toranaga est joué par un extraordinaire acteur que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait déjà mentionné.
Oh,
son
on en a
nom,
déjà parlé plein de fois.
Hiroyuki Sanada, qui est. Alors j'adore parce qu'il y a des journaux qui disent: Ah, c'est la révélation, Hiroyuki Sanada. Le mec, il approche des 60 ans.
Et le George Clooney japonais.
Et il a
c'est
été.
La révélation.
Il a été notamment. Pour nous autres,
les yeuves,
il a été Hayato dans Sengoku, mais il a roulé sa bosse puisqu'il a joué...
Ah, en France, on le connaît surtout parce que c'est le journaliste dans The Ring, la version japonaise. Ouais. Mais enfin voilà, dernièrement,
il a joué dans
John Wick 4, il a joué dans...
Même dans Avengers.
Dans Avengers, il a un petit rôle. Et oui, effectivement,
dans
comme
Bullet,
tu dis,
Bullet
il
Train,
est dans la Samouraï et Bullet Train. Les gens redécouvrent Hiroyuki Sanada, là, dernièrement.
Et là, vous voyez la série originelle avec Richard Chamberlain. Pourquoi je disais le goût des mamans ? Puisque je pense que...
Richard Chamberlain, oui,
bien sûr.
Je pense que
il était validé par le comité des mamans,
puisqu'il était la star. Il était la star d'une autre série qui s'appelait Les oiseaux se cachent pour mourir, qui a fait énormément de mal à notre cinéphilie dans les années 80. Et donc Toranaga était joué à l'époque par Toshiro Mifune. Donc c'est intéressant de voir que Hiroyuki Sanada joue désormais le rôle de qu'autrefois le plus grand comédien asiatique de tous les temps, Toshiro Mifune, incarnait. Il y a Tadanobu Asano aussi qui joue un rôle assez important dans la nouvelle version. Et ce qui est intéressant, c'est que Hiroyuki Sanada n'est pas juste comédien, il est aussi producteur. Et il a conditionné sa présence à beaucoup d'éléments, comme par exemple, il voulait que tous les membres du staff soit japonais, ou alors qu'il y ait des conseillers japonais sur tous les éléments.
Ah oui, il voulait pas de brochette de fromage.
Il a zéro brochette de fromage, alors que Shogun de l'époque...
Shogun était à peu près respectueux, ouais, comme peut l'être une production américaine des années 80, mais ça reste quand même... c'est pas brochette de fromage, mais c'est les mystères de l'Orient.
Ouais.
Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mystérieux, ces Japonais qui enlèvent leurs chaussures avant de rentrer dans leur maison.
Ils sont brutaux, mais en fait, au fur et à mesure, tu découvres qu'ils ont un cœur.
Voilà.
C'est un peu ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire...
Heureusement que l'homme blanc est quand même là pour apprendre à leur femme comment on fait l'amour. Tu vois. Enfin,
c'est un peu White Savior, évidemment. Voilà. Et je tiens à dire que l'AVF de cette série d'originelle est... La voix française était jouée par Claude Giraud.
Ouais.
Claude Giraud, que vous connaissez peut-être, puisque c'est celui qui jouait Slimane dans Rabbi Jacob, et aussi c'est la voix d'Ulysse 31. Et donc, à chaque fois que j'entends sa voix, je suis transporté, vraiment.
Mais alors, du coup, tu nous as pas dit si c'était vraiment si bien que ça.
Elle est vachement plus noire.
Ah.
Elle est vachement plus hardcore. Il y a des séquences un peu d'humiliation, parce que, évidemment, les Japonais étaient tough à l'époque. Et il y a aussi un truc qui est vraiment bien mis en valeur, c'est la lutte d'influence de l'Angleterre et du Portugal, justement, puisqu'il y avait les chrétiens, les protestants, il y avait la guerre de religion s'exportait par petites bribes jusqu'au Japon. Les Japonais n'en avaient rien à foutre, évidemment. Mais en tout cas, avait un impact sur la manière dont le Japon s'est ouvert à l'Occident à ce moment-là. C'est une période assez charnière et assez passionnante. L'espèce de Ieyasu est assez intéressant, puisque quelque part, c'est celui qui va... qui va ensuite unifier le pays et qui va donner une période de prospérité inouïe dans l'histoire du Japon, hein, puisqu'il y a 200 ans ou 300 ans presque sans guerre. C'est très, ouais, franchement, j'ai pris plaisir, c'est assez intéressant, et c'est pas complètement Karate Kid 2, quoi. Karate Kid 2 que tu connais pour étant le avec Pat Morita au Japon et le tambourin technique pour ceux qui aiment Karate Kid 2. Mais j'adore Karate Kid 2, je suis désolé, mais
oui, mais voilà, ça n'a pas forcément bien vieilli, c'est ça que tu es en train de dire.
Ça n'a ni bien vieilli, c'est pas très représentatif. Disons que il y a toute une mode de toutes ces œuvres de un occidental arrive au Japon et il apprend Tom Cruise hein, dans Le Dernier Samouraï. Et je pense que Shogun, tel qu'il est réinterprété aujourd'hui, est beaucoup plus correct et beaucoup plus rigoureux dans sa représentation que ce qu'on peut faire ailleurs. Quoi.
Combien d'épisodes, si tu veux, enchaîner Shogun ?
Ils en ont 8, il y en a 2-3 disponibles. C'est un par semaine, ouais. Et il y a une grosse production de value. L'écriture...
Ah bah ils ont du fric, hein. Moi je peux te dire qu'à la Comic-Con de San Diego, l'affiche de Shogun faisait toute la taille de l'hôtel... C'était le Marriott. Voilà. Donc c'est un hôtel. Enfin, t'imagines un immeuble de 40 étages aux couleurs d'une série. C'est la démesure, San Diego.
Et dans le staff, on trouve des gens intéressants. Donc j'ai dit les comédiens, mais aussi dans les auteurs. Par exemple, il y a une ex-journaliste autrice que j'aime bien qui s'appelle Emily Yoshida, qui est dans le staff writer et qui, tu sens qu'ils ont essayé de prendre quand même des gens qui sont impliqués, qui ont à cœur de montrer un Japon cohérent, quoi. Pas juste un brochet de fromage. Oui, c'est vrai, c'est toujours le problème est-ce que quand tu montres le Japon par le biais de l'Occident, comme Tokyo Vice, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct? Là, je trouve que c'est vraiment, ils ont vraiment, vraiment très, très soigné. Et c'est aussi l'occasion de voir quand même Hiroyuki Sanada jouer. C'est vraiment, il est incroyable, cet acteur.
Alors, la VO, elle est en anglais ou elle est en japonais?
Alors, elle est en... le Blackthorn, il parle en anglais. Et au fur et à mesure, il y a des traducteurs. Mm-hmm. Mais sinon, tous les autres parlent japonais. Mm. Donc, c'est vraiment... Ils ont vraiment travaillé la cohérence de ça. Je me souviens
Il n'y a pas le syndrome Star Wars, quoi.
Il n'y a pas le syndrome Star Wars.
Syndrome Tekken.
Il n'y a pas Richard Chamberlain qui apprend le japonais très, très vite, quand même.
D'accord, voilà. Très bien. Bien, merci Daniel pour cette reco sur Shogun, disponible sur Disney+, si j'ai vu le petit logo, décidément Disney+.
Ils ont l'alpha,
quelques recos,
l'alpha et l'oméga.
Ouais, exactement. J'en profite, allez, simplement pour remercier les gens qui sont venus me voir à la sortie du concert NIR, qui s'est tenu courant février en France, à Paris, au Palais des Congrès. C'était absolument incroyable. C'était incroyable. Ah oui. Là, tu voulais faire une blague sur le fait que Nier Automata a eu 7.
Non, je pense qu'il voulait faire une blague sur Jannick Nicole.
Nicole. Non, ça va.
Non, par contre, je me moque. Non. Est-ce qu'ils t'ont dit 7 sur 10
Non, ça va. Ils ont été. J'ai toujours mis en exergue la qualité absolument phénoménale des musiques. Là-dessus, je n'ai jamais transigé, mon cher Daniel. Et c'est vrai que les entendre réinterpréter par un orchestre de cette qualité, avec un chef d'orchestre sautillant qui était vraiment très très impliqué dans le processus, en présence de Keiichi Okabe, donc l'un des compositeurs de la bande originale.
Okabe a fait le déplacement.
Et Yusuke Saito également. Saito, c'était le moment d'annoncer les 8 millions d'exemplaires de Nier Automata, donc il était très fier de pouvoir annoncer ce nouveau cap directement sur scène, mais surtout l'interprétation était incroyable, en présence donc des deux interprètes, Amy Evans et Jannick Nicole. Je l'invite. Et embarras. D'ailleurs, elle s'est exprimée sur son compte Twitter personnel.
Ah oui ?
Oui, elle avait dit arrêtez les blagues. Mais en tout cas, en plus, la salle est vraiment à dimension humaine.
C'est laquelle ? C'était
Palais des Congrès. En plus, je pense qu'en vieillissant et en étant daron, on gagne en sensibilité. Donc, moi, la moindre corde qui vibre à 3 mètres de moi, ça me met en transe et j'ai des frissons, voire des espèces de larmes qui montent aux yeux, c'est nouveau.
Ah ouais,
avant ça me faisait pas ça, j'étais relativement insensible, et plus ça va et plus je m'enfonce dans la sensibilité, c'est terrible. Mais j'ai été transporté par la qualité incroyable, et puis les reprises étaient absolument sensationnelles. J'étais un peu déçu que mon morceau préféré ne soit pas comme dans l'original, parce que j'ai toujours cette espèce de petit poil à gratter en moi qui me dit que
La version studio est mieux.
C'était Amusement Park, donc c'est l'un des morceaux les plus emblématiques en plus de la BO. Ça mixait ni Réplicante et ni Automata, d'ailleurs, autant le préciser. Mais vraiment, on le voit d'ailleurs, Sautillé, le chef d'orchestre, là, sur la vidéo captée.
Il est habité.
Ah, c'est son
boulot. Et c'est normal, parce que ses compositions sont vraiment absolument fabuleuse. Il y a pas d'autre mot. Hein. Ça fait partie des plus grandes bandes originales de tous les temps du jeu vidéo, je pense.
En plus, pour un jeu extraordinaire.
Et même pas du jeu vidéo.
Pour un jeu extraordinaire. Bah moi, je pense que c'est. Tu sais, on en reparle.
Sans transition, on enchaîne directement avec Greg. Alors, Greg, tu sais qu'il y a des photomontages désormais sur le Discord de la communauté Soumimassen Turbo, puisqu'on t'a grimé en Christophe Ondelatte. Petit logo pour faire entrer l'accusé, puisque c'est toi l'homme des scandales.
Je les ai pas vus.
De Soumimassen Turbo.
Quel
là,
scandale nous amène, Greg?
Quel scandale tu nous amènes? Alors, un scandale un peu plus léger.
Oui, c'est merci. Mignon aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est un scandale. Bon, disons qu'il y a quelqu'un chez Nintendo qui a passé un mauvais week-end. Il y a eu un menu Kirby au McDo au Japon il y a 15 jours. Et le problème, c'est que le contrôle qualité des peluches ne s'est pas passé comme il fallait. Et en fait, les peluches n'étaient pas bien. Alors voilà, donc ça, c'est à quoi devraient ressembler les peluches normalement. Ouais, elles sont très belles, hein. Voilà, elles sont jolies. Mais le problème, c'est que voilà, elles ont été mal bourrées. Pour les peluches, on dit ça. On dit peluches, on met de la bourre. Ouais. Et donc, elles ont été mal bourrées, donc elles ont des formes différentes. Il y a eu aussi des bugs.
Ah oui, elles ont pas les. Le Kirby, voilà. Il n'a pas les.
Il y a eu aussi des problèmes de visage, c'est-à-dire que des éléments ont été mélangés. C'est-à-dire qu'un Kirby qui doit plisser la bouche ne plisse pas la bouche. Tu sais, il y en a qui ont des gros culs, il y en a qui sont ovales, il y en a qui. Enfin, la couture est pas au bon endroit, donc ça leur fait un vagin. Enfin, tu vois, il y en a des plats, il y a des Kirby en forme de frisbee pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas. Voilà, tu vois, là, il y en a un qui est grand, l'autre qui est en forme de poire. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a des yeux qui ont été mélangés, des bouches qui ont été mélangées. Alors moi, mon préféré, c'est celui-ci. C'est quand la bourre se répartit mal, t'as l'impression qu'il a un pantalon et des pieds. On dirait que Kirby a des bottes. Et Kirby avec des jambes, c'est très perturbant, je trouve. Mais ça
n'arrive jamais, ça, au Japon. On en a vu, il y a eu des exemples célèbres.
C'est déjà arrivé, mais là c'est... Enfin, regarde, on dirait vraiment qu'il a des bottes et un vagin. Enfin, ouais. C'est très bizarre. Il est étrange, ce Kirby, tu vois. Donc,
c'est vrai qu'il est
unisexe, Kirby.
Donc, du coup, Kirby, sold out. parce que dès que le truc s'est enflammé sur Internet, tout le monde voulait y aller parce que c'était la loterie. C'est-à-dire que les gens achetaient un menu en espérant avoir un Kirby moche, en fait. Et puis, ils se les alignaient en disant, regardez, moi, le mien sourit alors qu'il devrait plisser la bouche. Ah, moi, il lui manque les joues. Ah, bah, moi, il a un pied à gauche qui est pas bon. Et donc évidemment la sentence est tombée dès le lundi, l'opération était interrompue.
Ah oui, voilà.
Ils ont pas remis des Kirby.
Je veux bien que la Chine c'est en face du Japon, mais faut relancer les usines et tout quand même, tu vois. Ouais. Donc c'est voilà, toute opération est annulée.
Incroyable. Ah ouais, ça, ils n'ont pas transigé là-dessus. Hein. Contrôle qualité, c'est sacré.
Un Kirby avec un pantalon, c'est impossible.
On a vu des jouets McDo ou même d'autres chaînes de restauration de fast-food qui n'étaient pas conformes au personnage que tu espérais obtenir. Quoi.
Mais alors là, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est en 2024, qu'il y a du buzz, que les États-Unis ont commencé à s'en emparer. Et tu sais, là-bas, Nintendo, c'est sacré. C'est un peu disneyien comme gestion dans les droits et dans les images. Il y a aussi le fait que, je reprends différemment. Quand une figurine sort qu'elle est moche, mais qu'elle est moche parce que l'exécution est mauvaise, mais qu'elle ressemble à son artwork, pas de problème. Là, le vrai problème des peluches Kirby, c'est que t'as des Kirby qui n'avaient pas les éléments faciaux corrects. C'est-à-dire, t'as un Kirby qui sourit alors qu'il ne devrait pas sourire. T'as un Kirby auquel il manque le rose des joues. T'as un Kirby... Quand Kirby gonfle sa bouche, il est comme ça, là. Il fait une espèce de bouche fermée. Mais là, tu avais des Kirby qui étaient en position gonflée, c'est-à-dire qui étaient en forme de ballon, mais ils souriaient, ce qui n'est techniquement pas possible dans la Bible de Kirby. Tu vois, tu peux pas gonfler Kirby et qu'il ait la bouche normale, il faut qu'il ait la bouche de quelqu'un qui retient sa respiration. Et comme ils ont mixé les éléments de visage et que tu as des Kirby qui ont l'air gonflés alors qu'ils sont pas gonflés et vice-versa, des Kirby qui ont pas de joues, ça, c'est impossible. Enfin, c'est comme si c'était des faux, en fait. Donc là, je pense que c'était vraiment ça le problème. Ouais. Tiens, tu vois, là, on le voit, là. On voit le Kirby qui est gonflé. Regarde, tu vois, les quatre Kirby, pour ceux qui ont les images, à gauche, c'est les quatre Kirby que tu pouvais avoir dans le menu. Et à droite, tu vois que sur la photo de droite, le Kirby de gauche, il est gonflé, mais il a un visage souriant. Qu'il ne devrait pas être souriant comme ça.
C'est quoi, peut-être la version américaine-japonaise de Kirby, où les jaquettes japonaises, il sourit, et les jaquettes américaines, il a les sourcils
avec
foncés.
Avec son pantalon, il est incroyable.
Je ne peux plus dévoir, je ne peux plus unsee, comme on dit, Kirby vagin quand même. Ça, c'est vraiment, je ne vois que ça maintenant. C'est terrifiant. Ouais. Tu m'as brisé Kirby, Greg.
Nous qui avons eu la chance d'aller au Kirby Café pour voir des goodies absolument mirifiques au-delà des plats absolument délicieux.
La validation était
Souvenez-vous, l'Inde. Mais il faut on a eu Daniel au Super Nintendo World et on a eu Daniel au Kirby Café. C'était
le
à peu
méchant,
près la même émotion.
Le nom, on dirait qu'il a une bouche. Ouais. Parce que la couture est placée au mauvais endroit.
Waddle Dee, bah alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il faut dire un truc, c'est quand même une grande tradition du Japon. C'est que les mèmes se réapproprient quand même les figurines et les jouets pourris. Mmh. On se souvient notamment de Mokos, qui était un légendaire figurine moche de Xenosaga 2.
Ouais. Et je l'ai.
Non, mais il fallait la. Fallait
la boîte est énorme. J'ai
pourrais la rapporter sur le plateau.
Écoute,
là.
Je la ramènerai la prochaine fois.
Et Mokos, c'est vraiment. Et genre, on dirait que le robot, il a vécu l'enfer. Hein,
alors, à la base, c'est Cosmos. Donc, la cyborg sexy de Xenogears 2.
Cosmos.
Et ils avaient fait, pour la sortie de Xenosaga 2, pardon, ils avaient fait une version collector qui était très chère avec Cosmos debout et Cosmos assise dans son espèce de moto volante. Et la moto était magnifique. Et en fait, le personnage qui allait s'asseoir à l'intérieur avait un visage horrible. Et donc, c'est un des tout premiers mèmes japonais au début des années 2000. Les Japonais sont partis du principe qu'en fait, elle était possédée. Donc, ils l'ont appelée Jashin Mokos, donc Mokos, le dieu maléfique, parce qu'elle a un regard hyper flippant. Et voilà,
si tu la retrouves dans tes archives, on l'avait mis en plateau, je pense que ce sera la mascotte de cette émission.
Voilà. Ah non, mais Mokos, elle était extraordinaire. Il y a eu ça, et bien sûr, Toy Story...
Oui, alors lui, il n'est pas cursed. Hein. Lui, il fait vraiment cette tête-là dans le dessin animé. Oui, juste que les gens l'ont utilisé. Les toy photographeurs l'ont utilisé de manière un peu détournée.
Le Woody...
Le pervers Woody.
Pervers Woody.
Toy Story.
Il y a eu des quantités de photos de toy photographeurs qui se sont régalés avec.
Eh bien, merci messieurs pour cet instant reco. Nous, on va ouvrir la page que vous attendez toutes et tous. C'est Famitsu Mimasen avec peut-être le jeu le plus attendu de tous les fans de jeux vidéo japonais en 2024, à savoir Final Fantasy VII Rebirth, sur lequel on va sans doute s'attarder. Et là, je préviens Hubert, j'espère qu'il n'a pas trop faim, mais je vous préviens également vous. Hein. Je ne sais pas si vous avez du temps devant vous, mais en tout cas, ça va être un segment riche.
J'espère que vous avez commencé un marathon.
Et varié. Ouais.
Si on faisait cette émission en plein de petits morceaux la prochaine fois.
Non, mais en plus, c'est bien, vous pourrez jouer à Final Fantasy VII Rebirth. Et c'est un jeu qui prend du temps, et en plus écouter ce qu'on en pense, donc c'est formidable, mais ça ce sera juste après cette petite interruption.